Je voudrais souligner le rôle du peuple. C'était le peuple qui avait le souhait de se rassembler. Nous l'avons entendu. C'était le peuple qui a prié Esdra d'apporter le livre de la loi. Et de la part du peuple, aucun mot de critique. Seulement l'honneur de Dieu, le respect de la parole. Et ce qui m'a impressionné, c'est le rôle de la parole. Seulement entendre la parole, cela fait son œuvre. Ce ne sont pas au commencement les commentaires que les Lévites donnent, c'est la parole de Dieu qui parle par elle-même. Et sans aucun doute, cette parole s'adresse à nous aussi. Sans aucun commentaire, la parole opère. C'est la parole de Dieu, la parole vivante.
À ce sujet, nous pourrions rappeler une anecdote qui s'est réellement passée dans une réunion où il n'y avait pas de frère qui prenait généralement la parole. Un frère s'est levé et a lu les chapitres 14 à 16 de Jean. Et en entendu cette remarque, c'était peut-être la plus belle réunion parce que c'était Jésus qui nous parlait. C'est vrai qu'il vaut la peine de donner toujours la pleine efficacité à la parole de Dieu. Une autre remarque, on a insisté tout à l'heure sur le respect des frères, des anciens appelés à présenter la parole de Dieu, à exhorter. Nous rappellerons aussi cette anecdote qui s'est réellement passée. En sortant d'une réunion, un frère dit à un autre frère, « Eh bien, ce soir, nous n'avons rien reçu. » Et cet autre frère a répondu, « Et toi, qu'as-tu apporté ?» Il vaut la peine de savoir dans quelle disposition du cœur nous entrons pour écouter la parole de Dieu. Que ce soit pour entrer dans le local, que ce soit pour se présenter seul devant Dieu dans le secret de notre cabinet. Quelle est la disposition de notre cœur pour recevoir cette parole de Dieu? J'aimerais encore faire une remarque au sujet du verset 8e. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, tout le peuple répondit Amen. En élevant les mains, ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Nous savons qu'il y a actuellement des dispositions qui prêtent à tel ou tel geste une importance déterminante pour recevoir une spiritualité particulière. On accomplit un geste pour recevoir quelque chose de l'esprit, dit-on, parce que c'est en pratiquant des gestes que l'on manifeste et que l'on attend surtout de Dieu la bénédiction. Nous inversons en disant cela complètement les rôles. Le geste en soi est émouvant. Et il est extrêmement touchant pour autant qu'il soit le reflet de la disposition intérieure du cœur. Il est vrai que quelquefois nous ne pouvons pas nous empêcher de fermer les yeux pour se recueillir. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous empêcher de joindre les mains comme si nos mains étaient liées à Dieu dans cette réflexion, dans cette communication, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la lecture de la parole. Il est vrai qu'il nous est heureux de nous mettre à genoux, non pas pour attendre quelque chose de Dieu parce que nous sommes à genoux, mais parce que nous reconnaissons avec humilité une position de totale dépendance devant Dieu. Alors nous nous mettons à genoux, comme si par ce geste nous disions « Seigneur, nous ne pouvons rien ». Seigneur, nous sommes tes débiteurs. Seigneur, nous sommes à tes ordres. Nous sommes totalement à toi Et nous sommes là dans cette position du suppliant. Élever les mains jusqu'à Dieu, c'est comme si nous voulions dire à Dieu, mais nous t'en supplions, tout nous vient de toi, mais descends jusqu'à nous, apporte-nous ta bénédiction. Autant de gestes qui sont l'expression d'un sentiment profond du cœur, mais qui ne sont nullement là pour provoquer une spiritualité qui serait absente du cœur.
Une remarque suggérée ici par nos premiers versets de ce chapitre, Esdras. Nous la voyons ici, élevée au-dessus de tout le peuple, mais c'est pour mettre en évidence la parole de la loi. Et, mes amis, nous, dans les assemblées, ceux qui sont appelés dimanche après dimanche à donner la ration de blé ont une charge redoutable. Quelquefois, mes amis, le frère se lève pour lire la parole et a souvent pensé, l'ai fait moi-même, voyons voir qu'il est fini de lire, pour voyons voir ce qu'il va nous dire. L'essentiel, c'est la parole de Dieu, ce ne sont pas les commentaires. Et s'il y a des dons, mes amis, dans le rassemblement, ils ne valent, et la chose est dite ici, sujet de ceux qui se tiennent à droite, sur la droite et sur la gauche d'Esdras, ces hommes, eh bien, nous pensons, mes amis, à nos frères, à nos sœurs, qui se tiennent à nos côtés lorsque nous lisons la parole, combien on a besoin de la communion, des prières, de ceux qui sont à droite, de ceux qui sont à gauche, pour que vraiment Dieu nous donne ses pensées, qu'il y ait ainsi, édification, nourriture donnée par Dieu, car le don le plus éminent n'est rien sans la communion de ses frères.
On peut remarquer qu'il nous est dit en 1 Corinthiens 14, lisons quelques versets. À partir du verset 9, l'insistance de l'Esprit de Dieu pour nous inviter, lorsque nous parlons dans l'Assemblée, à prononcer un discours intelligible. Verset 9. Et que les dons de l'Esprit, nous devons chercher à en être abondamment doués pour l'édification de l'Assemblée. Ici, nous avons ce point qui apparaît, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Cette pensée, demander au Seigneur de nous accorder un langage clair et un langage compréhensible. Et d'autre part, nous voyons ici qu'ils en donnaient le sens, verset 8. Les Lévites en donnaient le sens. À ce moment-là, nous devons nous rendre compte qu'il y avait plus de 100 ans que le peuple était allé en captivité et à Babylone, des changements s'étaient produits dans le langage. Ils avaient parlé l'araméen et on peut dire qu'ils avaient des difficultés à comprendre l'hébreu ancien dans lequel la loi était écrite. Eh bien, cela aussi est une indication pour nous. Nous avons besoin, si nous avons reçu de la part du Seigneur un don d'enseignement, de pouvoir aussi donner des indications claires. Et il est dit qu'il faisait comprendre lorsqu'on lisait. Il y a à cet égard une réflexion qui est produite par le ministère de la parole dans l'Assemblée. Bien évidemment, la lecture de la parole est primordiale, mais n'oublions pas ce ministère oral. Et on peut dire aussi, ce ministère écrit ce que nous avons à notre disposition pour étudier la parole, pas seulement la lire, mais l'étudier chacun personnellement et ensemble. Et nous avons lu dans l'épître à Timothée tout à l'heure, et nous avons dans la seconde épître à Timothée une exhortation de l'apôtre Paul à son enfant Timothée, verset 13 du chapitre 1er, et un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est le bon dépôt de la vérité, de la saine doctrine. Donc, Timothée avait la possibilité de faire pour lui-même comme un exposé, un sommaire. Et cela nous montre aussi l'importance, lorsque nous étudions la parole, de chercher à faire nous-mêmes aussi un travail de réflexion sur cette parole. Et cela, c'est l'autre côté qui apparaît malgré tout ici, n'est-ce pas ? C'est-à-dire cette réflexion qui, une réflexion personnelle qui, bien sûr, nous engage plus profondément dans la compréhension de la parole. Rechercher la structure et que nos jeunes en particulier apprennent à faire des plans et à avoir ainsi, selon la capacité de chacun, une vision claire de la parole et de ce que le Seigneur demande de chacun et de son assemblée. Mais bien évidemment, nous n'allons pas nous référer à des écrits pour avoir un code, mais nous allons réfléchir et combien ces écrits qui sont à notre disposition nous aident à cette réflexion et à un exercice personnel à ce sujet. Et c'était bien ce qui était réalisé par ces serviteurs qui étaient avec Esdras et on peut dire que nous voyons ici en effet cette harmonie dans l'enseignement, cette complémentarité dans l'enseignement.
Encore quelques éléments relatifs à ce qu'on vient d'entendre. C'est d'abord, premièrement, sur cette pensée de l'expression corporelle en relation avec la réception d'une spiritualité. Insistons sur ce fait, comme il a été dit, il vient d'être dit, sur le fait que ces attitudes corporelles correspondent à une attitude devant Dieu, la manière dont on se tient devant Dieu. Mais ne mêlons pas ces choses avec ce qu'on trouve dans le monde quant aux techniques de communication. On a de plus en plus dans le monde, on fait la part du visuel, de l'auditif, on fait des répartitions et on y ajoute en plus de cela le contexte et l'atmosphère. Dans la parole de Dieu, les choses sont différentes. Dieu parle. Dieu parle et le Seigneur lui-même est appelé la parole et l'homme écoute. Et c'est ainsi que se transmet la pensée de Dieu, par la parole. Et tenons-nous-en là et ne soyons pas déformés par les méthodes de communication dont le monde est friand dans le temps actuel. Quant au rôle respectif de la parole et de l'enseignement, bon, il est vrai, il est certain que la lecture de la parole, on l'a dit plusieurs fois, c'est l'essentiel, c'est vrai. Et tout commentaire n'a pour but que de ramener à la parole et au sens de la parole. Ceci dit, il faut quand même reconnaître que plusieurs choses qu'on trouve effectivement dans la parole, Pierre nous parle des écrits de Paul, dans lesquels il y a des choses difficiles à comprendre, que les ignorants, pas seulement les ignorants, mais aussi les mal affermis, et qui de nous, en un sens, n'est pas aussi mal affermi, que les ignorants et les mal affermis tordent, comme aussi les autres écritures, à leur propre destruction. C'est un exemple. On a comme autre exemple, dans la parole, on a un Nicodème qui était peut-être de bonne foi, docteur de la loi, n'empêche qu'il ignorait l'enseignement de la nouvelle naissance. On a les disciples d'Emmaüs en Luc 24 où le Seigneur est amené à leur dire aux gens sans intelligence, lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dit. Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qu'ils regardent. Ils avaient les Écritures sous les yeux et ils n'en tiraient pas ce qu'il y avait dedans. Et le chapitre même que nous avons sous les yeux va nous le dire plus loin. Ils avaient un enseignement sur la fête des tabernacles. Ça avait été certainement lu, relu, par beaucoup, et puis on était complètement passé à côté. Et en ce sens-là, l'enseignement, il est important. Oui, l'écriture et l'enseignement n'a que pour but de ramener à l'écriture. Mais nous avons besoin d'un enseignement qui nous conduise, qui nous explique, et les écritures qui nous en fassent comprendre le sens. Et si nous négligeons cet enseignement, soyons certains que le résultat direct et automatique, c'est l'ignorance. Et c'est dans ce sens-là, nous avons alors, je reprends les passages qui nous ont été lus tout à l'heure dans 1 Timothée 4, jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, mais lisons aussi les versets qui entourent ce verset, où il est dit, 1 Timothée 4, verset 11, ordonne ces choses et enseigne-les, comme personne ne méprise ta jeunesse, mais soit le modèle des fidèles. Tout à fait, c'est un verset extrêmement important, parce que et il nous explique une chose, c'est que on avait quelqu'un là qui était jeune comme Timothée, qui du fait même de sa jeunesse n'avait pas d'autorité morale, et c'est comme si Paul lui disait, eh bien, pour avoir de l'autorité morale, il faut que tu sois le modèle des fidèles. Et c'est dans la mesure où tu seras le modèle des fidèles que tes paroles auront de l'autorité, autorité que tu n'as pas parce que tu es jeune. Mais tu peux acquérir cette autorité, mais par ta vie pratique. Et puis, verset suivant, nous l'avons lu, verset 13, jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation. Alors, verset 14, ne néglige pas le don de grâce qui est en toi. Hein, si on peut s'exprimer ainsi, le don est à cultiver, il ne suffit pas de l'avoir. Et puis, verset 15, occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier. Il y a un effort. Et un effort persévérant, et un effort pas seulement persévérant de temps en temps, mais sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement, persévère dans ces choses, et pas seulement pour soi, en faisant ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent.
Un point important en relation avec ce qui vient d'être dit, c'est l'état du cœur, soit pour recevoir, soit pour émettre la parole de Dieu. Et nous pouvons prier pour ceux que le Seigneur a placés dans le corps pour l'édification, de telle sorte qu'ils soient des canaux bien débouchés pour que l'eau pure de la grâce puisse couler et abreuver le peuple de Dieu. L'exercice du don ne peut pas être indépendant de l'état moral du serviteur. Ceci est un point clé. Il y aura peut-être la connaissance, mais il n'y aura pas la puissance du Saint-Esprit ni son onction. Et c'est cela qui fait du bien au peuple de Dieu. Quand Dieu nous parle, une réunion profitable, c'est quand, à l'issue de cette réunion, je me dis intérieurement, aujourd'hui Dieu m'a parlé. Même un incrédule qui pénètre dans une assemblée où l'enseignement de la parole est donné par la puissance du Saint-Esprit doit pouvoir dire, Dieu est véritablement parmi vous. D'où l'exercice de tout serviteur pour donner la nourriture en son temps à partir d'un état moral que Dieu approuve. Dans le jugement de soi-même, dans le jugement de toutes nos voies, c'est une responsabilité supplémentaire de laquelle nous aurons à rendre compte lorsque nous présentons la parole de Dieu dans l'Assemblée. Et cela suppose un exercice profond de tout serviteur pour donner strictement ce que le Saint-Esprit peut avoir à dire aux assemblées. Et il y a aussi l'état de ceux qui écoutent. Si je viens dans l'assemblée en me disant « Oh, c'est un frère un tel qui va parler, ça ne m'intéresse pas », eh bien, je refuse le prophète, en quelque sorte, l'homme de Dieu qui a quelque chose à dire de la part de Dieu. Et ceci éteint l'esprit lorsque nous méprisons les prophéties, c'est-à-dire ce que Dieu a prononcé par sa parole et son esprit. C'est un point très important. Et nous voyons combien l'apôtre était exercé, par exemple, vis-à-vis des Corinthiens, qui étaient charnels. Il leur dit carrément, nous voyons au chapitre 3, il leur dit « Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter. Et même maintenant encore, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore charnels. » Donc du lait pour des petits-enfants en Christ qui, étant charnels, ne faisaient pas de progrès. Et cela désolait l'apôtre qui aurait voulu les conduire beaucoup plus loin dans la jouissance des trésors divins, des vérités fondamentales. De même, les Hébreux, nous voyons au chapitre 5, les Hébreux, l'apôtre aurait voulu les entretenir de la sacrificature de Melchisédek. Et il ne le fait pas, ou plutôt, il s'arrête, pour ainsi dire, pour les exhorter, pour les avertir. Il leur dit, dans ces sujets, il y a des choses difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux. Voilà l'explication de la non-compréhension de l'Écriture aussi, lorsqu'elle est donnée, lorsque du côté du serviteur de Dieu, il y a un état moral que Dieu approuve. Et nous voyons donc que les Hébreux étaient devenus paresseux à écouter. Il y a une écoute qui est produite par le Saint-Esprit dans le cœur, mais si l'état moral est déficient, eh bien l'écoute sera mêlée à de la distraction qui, comme on a pu le dire, est un des plus grands fléaux du chrétien. La distraction, avoir des pensées dispersées en dehors de ce que Dieu peut avoir à nous dire. Et alors l'apôtre ajoute, vous devriez être des docteurs, les Hébreux qui apparteniez au peuple juif devenu chrétien, vous qui connaissez les Écritures de l'Ancien Testament, vous devriez être des docteurs vu le temps. Et vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les oracles de Dieu, car vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Donc du lait pour les petits enfants. Et la nourriture solide, l'apôtre continue, car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Donc nous voyons combien est important l'état moral du cœur de ceux qui écoutent la parole de Dieu lorsqu'il est lu, et peut-être encore plus important, l'état du cœur de celui qui présente la parole de Dieu. Combien cela nous incite à nous juger continuellement nous-mêmes pour que nous ne fassions pas obstacle à la bénédiction que Dieu se propose de toujours de nous donner quand nous sommes réunis autour de sa parole.
À propos du ministère et de la présentation de la parole, nous voudrions lire deux versets dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 45. Le Seigneur Jésus qui parle dans ce grand chapitre prophétique. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable. Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. S'appuyant sur ces versets, nous pouvons prendre cet exemple tout pratique, concret, que nous venons de vivre, par exemple, pour le repas de midi qui nous a été préparé. quel est, dans une maison où des personnes se rassemblent, le personnage le plus important? Ce n'est pas le cuisinier, en principe. En général, on ne le voit pas. Mais c'est une personne nécessaire, indispensable. Et le Seigneur Jésus parle là d'un esclave, ce n'est donc pas quelqu'un d'importance socialement, mais pas quelqu'un qui est destiné à être mis en évidence, à être là dans une chair ou en face d'une grande assistance et à être encensé par des auditeurs, pas du tout. Il y a deux adjectifs ici, en ce qui concerne la nourriture spirituelle. Et on voit comme tout est pesé, comme tout est parfait dans la parole de Dieu. L'esclave, il doit être fidèle et prudent. Et n'est-il pas remarquable que chacun de ces deux termes s'applique à un des caractères que doit avoir l'enseignement? Fidèle, c'est conforme à la vérité. C'est transcrire droitement, découper droit, comme nous avons dans la deuxième à Timothée, l'enseignement qui est donné. Ne pas le frelater, ne pas le falsifier, ne rien y ajouter, ne rien en retrancher. Fidèle. Communiquer ce qu'on a reçu, comme un canal, c'est-à-dire que tout doit pouvoir être perçu par celui qui est, si on veut, à l'autre bout, qui reçoit ses communications, fidèle. Mais l'autre adjectif, prudent, a aussi toute sa valeur. Et quelqu'un qui prépare des repas le sait bien. Il ne suffit pas que le repas soit conforme à simplement à la quantité de nourriture, qu'il y ait là suffisamment, mais il y a certaines règles diététiques, il y a des horaires, il y a la variété dans les plats, il y a toutes sortes de conditions qui font que pour l'alimentation convenable, celui qui en est responsable ne se contente pas de donner la nourriture, mais il la porte dans les conditions qui sont propres à être reçues, à répondre à l'appétit et au bon moment. Et nous avons tout cela, il me semble, dans l'expression prudent. On peut y voir, et il semble que le mot original peut aussi être rendu par sagesse. D'autres traductions donnent fidèle et sage. Eh bien, la sagesse consiste à ne pas donner l'enseignement divin n'importe quand, pour prendre un exemple. Parler à la conscience des croyants est bien important quand l'état moral est relâché, quand il y a des avertissements à donner. Mais parler à la conscience de quelqu'un qui est déjà exercé risque de le plonger dans le découragement. Il a besoin qu'on parle à son cœur. Il y a donc une autre forme d'enseignement à donner. Tout ne doit pas se dire à n'importe quel moment, ni de n'importe quelle manière. Il y a donc dans la présentation de la parole, à la fois la substance, et cela nous est donné par le terme fidèle, et puis la prudence, qui est relatif plutôt à la manière. Et pour ça, il faut du discernement. Il faut savoir à quel moment la parole doit être présentée et de quelle manière elle doit l'être. Et nous revenons alors à Néhémie. Et nous voyons qu'il y a eu là un effet sur les auditeurs. Il y a ceux qui menaient deuil et qui pleuraient. Voilà, cela avait été l'effet de la présentation de la parole. Ça nous rappelle dans l'histoire de Josias, du roi Josias, quand la parole avait été retrouvée dans le temple par Ilkija, le grand sacrificateur. Alors elle avait été apportée au roi, cette loi de l'Éternel. Il avait déchiré ses vêtements. Ah, il y avait eu un effet, n'est-ce pas, d'une profonde tristesse et une humiliation qui avait été la conséquence de la présentation de la parole. On peut dire ici aussi, voilà le peuple qui pleure et s'afflige. C'est le résultat de ce qui vient d'être dit. Et ça était à sa place. Et il devait y avoir cet effet-là sur le peuple. Il devait avoir conscience de leur misère, de leur petit nombre, des tristes conditions dans lesquelles ils se trouvaient. Et puis voilà, Néhémie, Esdras, et puis les Lévites, qui viennent alors apporter un correctif, un complément, pour dire au peuple, ce n'est pas le moment de mener deuil. Ne pleurez pas, parce que ce jour est saint à l'Éternel. Il y a donc une attitude qui était dictée, et ce sont de nouveau les mêmes serviteurs de Dieu qui redressent dans un sens ces choses-là, qui mettent les choses à leur place. On peut dire qu'ils agissent avec cette sagesse, conscience du moment dans lequel se trouve le peuple, et que c'était un jour de joie. L'humiliation viendra après, et en particulier le chapitre 9 nous la présente alors. Mais là, il y a la joie qui doit remplir le cœur et qui seul peut donner de la force au peuple dans sa faiblesse. On voit comment la parole de Dieu est affinée, adaptée, doit s'appliquer chaque fois aux besoins. Et pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, qu'un serviteur du Seigneur soit bien fondé dans les Écritures, ni sache bien les exposer, ni le fasse même de tout son cœur, ni non plus soit un exemple lui-même. Tous ces points sont importants. Savoir mettre soi-même en pratique ce qu'on présente aux autres, mais avoir aussi cette prudence, ce discernement du moment, et savoir appliquer la parole à ceux auxquels on a affaire. On parle à nos petits-enfants, on ne leur parle pas de la même manière que l'on parle en public dans l'assemblée. Il y a tout cela, il me semble, et pourquoi je me suis permis d'insister sur cette expression, sur la prudence, le fait de savoir présenter la parole de la bonne manière et au bon moment.
On l'a dit, l'humiliation est nécessaire, mais elle ne donne jamais la force. On peut donc se poser cette question, pourquoi donc ici la joie et demain l'humiliation? Pourquoi dans cette deuxième partie du chapitre 8e, la joie est votre force, et au début du chapitre 9e, c'est l'humiliation? Certainement, ce que Néhémie veut dire, c'est que au moment où la lecture de la parole avait été prononcée, qui jugeait le cœur de chacun, chacun pensant à son passé, chacun le jugeant en fonction de la révélation de Dieu, il y avait un sentiment de telle amertume que les cœurs étaient poussés à la tristesse. Et cela est compréhensible au point que dans chaque réveil, il y a eu une telle conscience de la sainteté de Dieu et de la désobéissance de l'homme qu'il y a toujours eu de l'humiliation. Mais
Le peuple est appelé maintenant à agir, parce que le réveil n'est pas seulement pour s'humilier, il le sera demain, il le sera au chapitre 9, mais aussi pour prendre conscience des ressources de Dieu. Et si dans un réveil, l'homme prend conscience de son néant, de son absolu néant, dans l'expérience passée, parce que rien n'a pu être produit pour Dieu dans le passé immédiat. Dans le réveil, il y a aussi conscience des ressources de Dieu. Est-ce que le peuple ne prenait pas conscience? Et c'est ce que Néhémie, le gouverneur, ou Tirshatha, c'est le nom du gouverneur, est-ce que Néhémie ne voulait pas dire cela? Mais écoutez, vous pleurez, et c'est une bonne chose. Il faudra le faire aussi ensemble, mais pensez à ce que Dieu a fait. Zorobabel est monté de la captivité. Esdras est monté de la captivité. Moi-même, je suis monté de la captivité. L'autel a été reconstruit. Le temple a été reconstruit. Et maintenant, la muraille a été achevée dans des conditions très difficiles. Alors, réjouissez-vous. Les ressources de Dieu ne manquent pas. Et si Dieu a pu se manifester en puissance jadis, il peut se manifester en puissance demain. Aussi, il faut que ce soit un jour d'action de grâce, en reconnaissant ce que Dieu a fait, et un jour de confiance et de joie, en pensant à ce qu'il peut faire et à ce qu'il fera. L'important, quand il est dit « la joie sera votre force », c'est que cette joie ne soit pas fondée sur les capacités de l'homme, mais soit fondée sur les interventions divines.
En effet, il y avait dans le livre du Lévitique des instructions concernant les fêtes. Et il y en a une qui est passée sous silence ici. C'est la fête des propitiations. Et c'était la fête où on s'affligeait. Mais la première des choses, eh bien ici, c'est donc la fête des trompettes. Et dans ce jour-là, on peut se réjouir. Et cela nous rapporte à ce qui est dit dans le psaume 81, du verset 1 à 4. Psaume 81, verset 1er. Chantez joyeusement à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez le cantique et faites résonner le tambourin. La harpe agréable avec le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au temps fixé au jour de notre fête, car c'est un statut pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il y a donc ici un encouragement à se réjouir. Et on peut dire que nos frères du siècle dernier ont sans doute aussi connu tout ce que l'homme avait fait de cette parole. Comment il avait laissé tomber tout ce que Dieu avait mis dans ses mains. Comment il avait perdu bien des bénédictions. Mais d'avoir retrouvé ces vérités du culte par l'esprit, d'avoir retrouvé ce rassemblement autour du Seigneur Jésus, le nom qui rassemble, quelle joie a rempli leur cœur. Et puissions-nous la goûter encore aujourd'hui. C'est ce qui fait effectivement toute notre force. La joie de l'Éternel est votre force, et la joie du Seigneur. Et dans les chapitres 14, 15 et 16 de l'Évangile de Jean, le Seigneur nous parle de cette joie, particulièrement dans le chapitre 15. Et justement, quand nous sommes attachés à Christ, eh bien, il est alors notre joie. Et cela nous donne une force pour élever nos cœurs, d'abord en louange, en reconnaissance, car c'était bien là le fait de la fête des trompettes. Et le cœur du peuple pouvait se réjouir, et il est appelé à se réjouir. Et l'apôtre dans l'épître aux Philippiens nous enseigne à plusieurs reprises, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il y a toujours des sujets de joie. Combien il est précieux de voir que Dieu nous donne encore sur la terre ces sujets de joie. Il y aura, comme nous l'avons dit, les sujets d'humiliation. Si Dieu, dans sa sagesse, n'a pas parlé ici de la fête des propitiations, la fête des tabernacles, est au 15e jour, mais la fête des propitiations était au 10e jour. Et il y aura un moment où il faudra s'humilier. Mais ce qui convient d'abord et ce qui fait notre force, c'est de nous réjouir dans le Seigneur.
En rapprochant deux versets, dans les Éphésiens et dans les Philippiens, Éphésiens chapitre 6 et au verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous tournons la page. Philippiens chapitre 3, premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il n'y a que le verbe qui change et qui, précisément, met l'accent sur, d'une part, la force, d'autre part, la joie. Et ce rapprochement nous confirme, n'est-ce pas, quelle est la source de la force du chrétien. Tout à l'heure, on a dit l'humiliation est nécessaire, mais elle ne donne pas de force. Par contre, l'occupation du Seigneur et de ce que nous possédons en lui nous donne cette joie qui fortifie notre âme. Cette force, elle vient de l'occupation du Seigneur et de ce qu'il est et de ce qu'il donne. Et comme le Seigneur est le même, ne change pas, nous l'avons dans notre passage un petit peu plus loin, eh bien, notre joie, elle pourrait être continuelle. Si nous nous réjouissons dans les circonstances, c'est sûr que les circonstances changent, elles ne sont pas toujours au plus haut pour les croyants, nous ne savons que trop. Eh bien, notre joie, elle suivra la courbe, elle descendra avec nos moments difficiles, puis elle remontera quand tout ira bien. C'est pas cela la joie du chrétien. La joie dans le Seigneur, elle est dans une personne qui ne change pas. Et même, ce qui est un paradoxe, c'est quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Comment un chrétien peut être à la fois éprouvé dans des circonstances difficiles, avoir des soucis, des problèmes, et puis être heureux quand même. Posséder cette joie inaltérable, et c'est le plus puissant des témoignages. Et c'est pourquoi Paul, c'est du fond de sa prison qu'il écrit aux Philippiens, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Il est lui-même dans les circonstances les plus difficiles qu'on puisse se représenter. Et c'est là, c'est de là qu'il fait entendre cette exhortation. Et dans cette même ville de Philippe, il écrivait aux Philippiens, mais les Philippiens pouvaient se souvenir de la première visite de Paul et de Silas au milieu d'eux, également dans la prison. Il en a connu des prisons, Paul. Dans cette prison, les pieds blessés par les bois, par les fers dont il avait été cruellement lié, il chantait avec Silas. Il donnait l'exemple de ce qu'il recommande ensuite à ses chers Philippiens. Et voilà quel était là le secret de sa force et de sa joie, les deux allant ensemble.
Donc il était tout à fait opportun, selon l'esprit de ce jour solennel qui est appelé en Lévitique 23 un mémorial de jubilation, une sainte convocation, que le peuple se réjouisse. C'était selon la pensée de Dieu pour arrivé à la fête des tabernacles où en Deutéronome 16 il est dit que tu ne seras que joyeux. Alors cette joie de l'Éternel, qu'est-ce que c'est au fond? C'est son Messie, c'est Christ. Et cette force, Paul l'a tirée de Christ. « Je puis toutes choses en celui qui me fortifie », dit-il au chapitre 4 des Philippiens. Et cette joie dans le Seigneur, non pas dans les circonstances, eh bien, elle nous délivre de tout égoïsme. Et c'est ainsi que Néhémie et Esdras, intelligents, dans la pensée de Dieu, disent à ce peuple, « Mangez de ce qui est gras, buvez de ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint consacré à notre Seigneur. » Quand la joie surabonde dans le Seigneur, et le Seigneur, en présentant ses paroles aux disciples, peut leur dire que votre joie soit accomplie, c'est-à-dire parfaite, eh bien, l'âme est disposée à penser aux autres, à apporter quelques bénédictions de la part qu'on a goûtée dans la présence de Dieu. Tout d'abord, il s'agit de se nourrir, comme l'exprime le psaume 36, au verset 8, « Ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, tu les abreuveras au fleuve de tes délices, car par devers toi est la source de la vie. En ta lumière, nous verrons la lumière. » Nous voyons tout l'intérêt pour l'âme de jouir de tous les biens spirituels que lui communique la parole de Dieu. Mais ensuite, il y a des portions qui sont envoyées à d'autres parce qu'on s'est réjoui dans le Seigneur et l'âme délivrée de tout égoïsme désire que cette joie soit partagée. Mais ces pleurs qui précédaient, s'ils n'étaient pas conformes à l'esprit de ce jour solennel toutefois, c'était un spectacle pour le cœur et les yeux de Dieu qui retenait toute son attention quand nous voyons ce qui est dit dans Ésaïe 66, verset 2, « C'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. » Voilà ce qui a été produit. C'est pourquoi la pensée de Dieu leur est communiquée. La voix du Maître est reconnue et nous voyons combien elle éprouve toute satisfaction quand elle découvre son Seigneur. L'âme qui le recherche a toujours une bénédiction à la fin. Et cette joie dans le Seigneur est tout à fait à sa place. Nous occuper de Christ à travers les Écritures, voilà une clé, source de vraie bénédiction, dont nous pouvons faire participer aux saints, à ceux qui ont une commune foi, partager avec eux ces richesses insondables du Christ, nous édifier mutuellement sur notre très sainte foi. Et nous voyons que les Lévites, intelligents dans les pensées de Dieu, eh bien, tranquillisent tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et nous voyons immédiatement le peuple qui écoute les instructions données par les Lévites qui les ont tranquillisés. C'est un effet aussi du ministère. L'âme est en paix avec Dieu. Elle jouit de la présence de Dieu. Le vrai ministère prophétique place les âmes dans la présence de Dieu, met à nu tous les motifs du cœur. C'est l'effet de la parole de Dieu. Et alors, nous jouissons de l'amour, de la paix, de la joie, ces premiers caractères du fruit de l'esprit qui sont produits par les effets de la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Et nous voyons que tout le peuple s'en va pour manger et pour boire et pour envoyer des portions et pour faire de grandes réjouissances. La raison nous est donnée, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Combien cela aussi est précieux de comprendre ce que Dieu nous dit à travers toutes les Écritures. Comprends-tu ce que tu lis? C'est un point clé que la compréhension des Écritures, et nous ne pouvons le faire que par l'action du Saint-Esprit opérant dans nos cœurs. Dans nos consciences, il faut un équilibre, bien sûr, dans ce qui est donné. Le cœur pour gagner la confiance et la conscience transpercée pour que le mal soit jugé et que le bien soit recherché selon la pensée de Dieu.
Nous voudrions retirer un exemple pratique de ce qui est devant nous. Nous voyons des croyants, des chrétiens qui assistent au culte. Nous les voyons assidus au culte et puis l'après-midi nous ne les voyons plus. Alors cela reste encore dans le livre d'Esdras, mais il y a la muraille et il y a la parole. Alors, est-ce que nous allons mépriser ce que Dieu nous a donné? Est-ce que nous allons nous attacher à l'instrument que Dieu emploie au lieu de penser que Dieu a quelque chose à nous dire? C'est un danger que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées et qui nous attriste beaucoup. Il n'y a pas cet appétit pour la parole de Dieu. Non, on ne peut pas venir adorer si on ne s'est pas nourri. On ne peut pas faire des progrès si on ne se nourrit pas. Et il y a une bénédiction toute particulière dans le rassemblement de nous-mêmes, non seulement pour le culte, mais aussi pour écouter la parole, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et comme on l'a dit, Dieu utilise ses instruments. Ce ne sont que des instruments dans sa main, mais ils peuvent être profitables pour le peuple de Dieu, et nous nous privons d'une grande bénédiction si nous manquons à ce rassemblement de nous-mêmes, non seulement pour le culte, mais aussi pour écouter la parole, qui est indispensable à la vie de notre foi.
En fait, a été relevé et qui est de la plus grande importance, au premier jour du septième mois, il y avait la fête des trompettes. Et au quinzième jour, il y avait la fête des tabernacles. Et entre deux, au dixième jour, il y avait la grande fête des expiations. Et cette fête-là n'est pas relevée. On peut se poser la question, pourquoi donc? Pourtant, c'était une fête d'une importance capitale en Israël. Bien, nous pouvons relever ceci, c'est qu'en rentrant de la déportation, l'arche de l'Éternel n'est pas revenue à Jérusalem. Ce qui veut dire que le temple avait été reconstruit, mais que le lieu très saint était vide. Et quand le Seigneur Jésus est mort et que le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas, on a vu qu'un endroit vide, totalement vide, il n'y avait plus rien. Ceci a une portée morale. Dans un réveil, on n'a jamais, ou en tout cas pas dans l'immédiat, conscience de la grandeur des pensées de Dieu. On a d'abord conscience de la révélation qu'il nous donne de lui-même par ses actions, comme ici dans le livre de Néhémie, par la construction de la muraille et par le don de sa parole. Il y a donc dans un réveil, souvent, en tout cas au tout début, une révélation qui peut être partielle. Je cite un simple cas. John Darby a mis 7 ans pour connaître l'affranchissement. 7 années de travail, de préoccupation, jusqu'à ce qu'ils prennent une position ecclésiastique qui est celle de la séparation. Cette année de réflexion, cela nous fait penser à la formation du serviteur qui souvent était proportionné dans sa longueur au service qu'il allait accomplir. Pensons à Moïse, 40 années de désert, 40 années de service. Pensons à Paul, qui a été longtemps, dit-il, dans le désert, en attendant de commencer son ministère. Cela signifie que l'on a tout d'abord conscience de ce que Dieu fait avant de prendre conscience de ce que Dieu est. Parce que dans le grand jour des propitiations, il y avait cet acte de foi qui pensait que le sang étant porté sur le propitiatoire, l'œuvre de Dieu était parfaite dans la justification de son peuple à travers le sang qui était présenté devant lui. Mais cela n'apparaît pas encore au peuple à ce moment-là. Il y voit plutôt la bénédiction de sa protection tout au long de la construction de la muraille et de la bénédiction contenue dans la révélation de cette parole. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas attendre dans un réveil à avoir une connaissance toujours plus étendue de Dieu, mais cela veut dire qu'il faut prendre conscience que dans un réveil, nous réalisons par-dessus tout notre faiblesse et le fait que nous n'arriverons plus à connaître les jours de bénédiction tels que le début du livre des Actes nous le révèle.
Alors pour poursuivre, nous avons donc à partir du verset 13 la fête des tabernacles. Nous savons qu'elle nous présente sous l'aspect prophétique le moment où l'établissement du règne, où le Seigneur pourra faire profiter la terre des bénédictions de sa présence et de son royaume. Ce sera alors un temps de joie qui succédera à la tribulation et à la période d'affliction dont il a été question tout à l'heure. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer nous-mêmes d'un tel passage? Les tabernacles, c'était donc une construction provisoire faite de branches, des tentes, des abris sous lesquels le peuple devait habiter pendant les jours que durait cette fête, les 7 jours, et ça c'était un rappel du temps passé dans le désert, du caractère d'étranger, alors que maintenant ils habitaient des maisons. Ils regardaient en arrière et ils disaient, oui, Dieu a pris soin de nous pendant notre pèlerinage. Et nous croyons, cette fête et ces versets que nous avons devant nous, croyant du temps actuel, nous le sommes véritablement pèlerins et étrangers. Non pas oublier ce caractère. Nous sommes dans un monde dans lequel nous ne sommes pas chez nous. Et nous regardons alors plutôt en avant. Nous regardons à ce domicile, à cette maison dans laquelle nous serons enfin arrivés. Mais le temps actuel, c'est bien un temps dans lequel nous mesurons que nous sommes, comme dit l'apôtre, dans cette tente. Notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente. Et c'est un rappel que nous pouvons nous faire les uns aux autres de ce caractère d'étranger. Il est bien, bien important de nous en souvenir dans des temps où on tend tellement, par des conditions de vie faciles, à nous asseoir, à nous installer, à nous établir dans ce monde comme si nous y étions chez nous. Ce sommes que de passage, des pèlerins, en route vers la maison. Non pas sans ressources. Et ayant devant nous un but, ce que n'a pas le monde n'a ni but ni ressources pour y parvenir. Le chrétien a à la fois ce but, c'est Christ, et ses ressources qui sont la jouissance de la personne du Seigneur Jésus. Et alors nous pouvons nous réjouir dans ce temps de, tout en étant dans une tente, tout en étant étranger dans ce monde, le chrétien peut avancer avec joie vers ce but, en pensant à son modèle, au Seigneur Jésus, dont Hébreux 12 nous rappelle que lui aussi a suivi le chemin de la foi. Lui aussi, et plus que personne, mieux que quiconque, a porté ce caractère d'étranger céleste dans ce monde. Comme on l'a dit, étranger à ce monde, mais pas étranger à ses peines. Il a traversé à ce monde, mais à cause de la joie qui était devant lui. Il portait à la fois le caractère d'étranger et puis la joie du ciel, la joie qui était devant lui, la joie de l'œuvre accomplie, la joie d'avoir devant lui cette pensée que son épouse, acquise à si grand prix, serait bientôt à ses côtés. Voilà ce que nous pouvons peut-être tirer pour nous-mêmes de cette fête des tabernacles. Alors peut-être encore un mot à propos de l'expression pour devenir intelligent dans les paroles de la loi. Ce n'est pas, nous disions ce matin, la même intelligence que celle des enfants ou de ceux qui, dont il est dit au verset 2, tous ceux qui avaient de l'intelligence. L'intelligence, c'est la part normalement de tout homme. Les païens aussi. Romains 1 nous dit et tout homme a une intelligence pour découvrir au moins dans la création qu'il y a un auteur de toutes ces choses, un Dieu créateur. Et ensuite, quand ils alors s'établissent des idoles et s'adonnent à leur passion, ce même passage nous dit que leur cœur est destitué d'intelligence. C'est l'intelligence naturelle. Mais ici, alors, il y a une intelligence spirituelle que nous sommes tous appelé à acquérir. Et nous pouvons y parvenir comment? Par la parole du Seigneur, comme nous l'avons chanté.
Nous aimerions encore dire un mot sur ce passage pour devenir intelligent. Il s'agit en effet d'un désir, il y avait ceux qui désiraient devenir intelligents. Et ils souhaitaient cela en faisant appel à Esdras, qu'ils connaissaient pour être bien fondés dans la loi de l'Éternel. Ils ont la conscience qu'ils sont limités pour comprendre cette loi, et ils font confiance à un serviteur particulièrement fidèle pour qu'il puisse leur ouvrir les Écritures. Cela nous fait penser à l'enseignement que nous avons reçu et que nous méprisons facilement et que l'on traite souvent de tradition et que l'on désirerait supplanter par des choses nouvelles. Quelle erreur! Les fondements de Dieu restent toujours les mêmes. Dieu se révèle aujourd'hui à son Église comme il s'est révélé jadis au début des Actes. Dieu est le même, il ne peut changer dans la révélation qu'il nous a donnée de ses pensées et en particulier celle relative au fondement de l'Assemblée. L'application de cet enseignement-là, c'est que nous devons toujours rapporter cet enseignement à la parole de Dieu, et c'est ce que voulaient les serviteurs qui nous ont donné cet enseignement. C'est toujours rapporter leur enseignement à la parole de Dieu, et nous sommes invités à le faire avec sérieux et sans aucun parti pris pour ne pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas, ou faire dire une chose partielle au détriment de la totalité de la vérité de Dieu. il y a plusieurs façons de relater la parole de Dieu, comme dit Paul, ou de tordre les Écritures, comme dit Pierre. Nous devons y prendre garde. Et ça a été le souci constant de nos conducteurs de nous amener à une compréhension totale de la parole de Dieu, une portion pouvant être expliquée par une autre portion de la parole de Dieu. La référence constante est la parole de Dieu dans son intégralité et dans sa totalité. Alors il y avait ceux qui avaient une certaine capacité pour comprendre, nous l'avons dit, c'est le début de ce chapitre. Il y a ceux qui désirent devenir intelligents dans la compréhension de cette pensée de Dieu. Que faut-il comprendre par ce désir de devenir intelligent dans les paroles de la loi, ceux qui s'assemblent autour d'Esdras pour cela? L'intelligence est une faculté donnée à l'homme, on vient de le dire. Dieu ne l'a pas donnée pour que l'homme la méprisât. Il l'a donnée pour que l'homme l'utilise. Et il serait bien faux de dire que l'homme doit faire fi de son intelligence. Il faut donc utiliser cette faculté pour comprendre la parole de Dieu. Et quand il est parlé d'une intelligence spirituelle, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une intelligence, faculté de l'homme, guidée par le Saint-Esprit, puisqu'elle est spirituelle. Et en particulier, le Saint-Esprit nous gardera dans la compréhension de la parole de Dieu, nous gardera d'interprétations fausses, d'interprétations qui sont le fruit de la chair de l'homme. Donc l'intelligence n'est pas mauvaise en elle-même, mais elle devient mauvaise si on l'utilise en particulier pour mettre en doute la révélation de Dieu dans son intégralité, dans sa totalité. Là, l'intelligence est fautive et gravement fautive. À ce sujet, j'aimerais lire un passage des Proverbes qui donne une explication très grande sur cette pensée de l'intelligence. Au chapitre 2e des Proverbes, je me permets de lire quelques versets. Au verset 1er, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et que tu caches par devers toi mes commandements pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et te trouveras la connaissance de Dieu. » L'intelligence qui est propre à faire entrer dans la connaissance de Dieu est l'intelligence qui provoque dans l'être intérieur la crainte de Dieu. Je continue. « L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve de saints conseils pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, protégeant les sentiers de juste jugement et gardant la voie de ses saints. » Alors il y a deux choses. Premièrement, à quoi utilisons-nous notre intelligence? Serait-ce pour critiquer la parole de Dieu? Serait-ce pour démolir l'enseignement de nos conducteurs? Ou l'utilisons-nous au contraire pour mieux comprendre la parole de Dieu, en particulier par le ministère de nos conducteurs? Deuxième question. Que faisons-nous de ce que nous avons compris de la parole de Dieu? Est-ce que nous en gardons une connaissance qui ne nous touche nullement de près, une connaissance qui serait semblable à une connaissance scientifique, intéressante peut-être, même probablement, mais une connaissance qui ne nous lie nullement à notre être intérieur. Si nous apprenons quelque chose de la parole de Dieu, c'est pour que notre être intérieur, c'est-à-dire notre cœur, notre conscience, soit peu à peu transformé à une identification à la pensée de Dieu. Si la parole de Dieu, si l'intelligence de la pensée de Dieu ne nous conduit pas à être plus près de Dieu, et si cette connaissance ne transforme pas peu à peu notre vie, cette intelligence a été mal utilisée. Mais ne pensons pas qu'il va se faire dans notre être intérieur une transformation subite, une transformation que nous souhaiterions manifeste, mais cherchons à se trouver toujours plus près de Dieu, pas à pas, jour après jour, dans une consécration toujours plus grande. Ce qui compte, finalement, dans cette compréhension des voies de Dieu, c'est qu'il y ait progrès.